Hello et bienvenue sur Entreprendre dans la Santé, le podcast qui a pour but de t'inspirer et de t'en apprendre plus sur l'entrepreneuriat dans la santé à travers le parcours de celles et ceux qui ont sauté le pas. Chaque discussion te permettra de tirer des choses concrètes et applicables de leurs réussites et erreurs, leurs stratégies et insights. Je suis Jean-Baptiste Michel, passionné d'entrepreneuriat et étudiant en master en management de la santé et data intelligence, et je te souhaite un bon épisode. Dans cet épisode booster d'Entreprendre dans la Santé, je discute avec trois étudiants entrepreneurs en santé. Julien Lelandais de Samdoc Medical Technologies, Maxime Klein de Mediflash et Clément Parot de Sun. Au-delà de leur formation initiale en médecine, infirmerie, entrepreneuriat et web, ces étudiants partagent la même ambition, avoir un impact sur la santé de demain. Au cours de notre échange, nous discutons de mindset, d'études, de réseau, de concurrence et surtout de challenge à l'entrepreneuriat en santé. J'ai été impressionné par la maturité et la détermination de ces jeunes entrepreneurs en santé. Alors en espérant que l'épisode vous plaira, je vous souhaite une bonne écoute. Dans cet épisode, Julien, Maxime et Clément nous expliquent comment savoir si l'on est fait pour entreprendre en santé, comment bien s'entourer en partant de zéro, comment se faire une place dans l'industrie de la santé, réputée pour ses hautes barrières à l'entrée alors même que l'on est encore étudiant, comment financer le début de son aventure entrepreneuriale en étant étudiant. Salut et bienvenue sur ce nouvel épisode, un épisode hors série d'Entreprendre dans la santé. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur, l'entrepreneuriat en santé quand on est étudiant. Et pour cela, je suis pas tout seul. J'ai proposé à plusieurs étudiants ou anciens étudiants du moins et entrepreneurs en santé de venir nous partager leur expérience. Alors le but de notre discussion, ça va être de décomposer l'entrepreneuriat en santé d'un point de vue d'étudiant. Donc on va parler vraiment de mindset, d'études, d'idéation, de produits et tout un tas de sujets qui intéressent donc non pas seulement les étudiants, je pense, mais un peu toutes celles et ceux qui souhaitent entreprendre dans la santé. Donc je vais vous laisser vous présenter mes chers invités. Vous pouvez nous dire, je pense, qui êtes-vous, qu'est-ce que vous étudiez et votre projet en une phrase, un petit peu pour qu'on mette un nom, un projet derrière la voix. Et puis après, on va parler du tout début de l'éducation, l'enfance, jusqu'à vraiment l'entrepreneuriat en santé et votre challenge actuel. Vous êtes chaud, c'est bon?
Ouais, ça roule.
Ça roule? Ok, super. Du coup, on va commencer. Clément, je te propose de te présenter rapidement.
Ok, alors moi c'est Clément, du coup j'ai 22 ans, j'étudie encore actuellement à Ethic, donc c'est une école dans la tech, donc on fait business, design, etc. Business. Et mon projet, c'est une application mobile dans la santé, où en fait chacun peut partager son expérience, son ressenti sur la maladie. Donc il y a tout un patient expert où les gens se donnent des conseils. Et voilà.
Ok, super. Merci beaucoup. Le prochain, du coup, c'est Julien. Je te laisse.
Merci. Moi, c'est Julien Lelandais. Je suis encore étudiant en médecine en cinquième année. J'ai aussi 22 ans comme Clément. Et j'ai cofondé Samdoc. On a pour objectif d'utiliser le visage et le corps des patients pour, dans un premier temps, réussir à extraire la quantité de douleur chez les patients qui communiquent pas, mais demain peut-être extraire d'autres marqueurs pour la prise en charge.
Ok, merci. Un peu plus complexe du coup, intéressant. Maxime ?
Alors du coup, moi c'est Maxime, je suis un peu plus âgé, j'ai 25 ans, et après un parcours un peu atypique, je viens de finir un master entrepreneuriat à HEC, et je suis le cofondateur de Mediflash. On est une plateforme de mise en relation entre établissements de santé qui ont des besoins de remplacement courts et des soignants qui ont un statut d'indépendant.
Merci. Bon, c'est clair. Vous avez été super fort. Je suis impressionné parce que vous avez réussi à garder ça super court, alors que généralement, c'est pendant cette phase-là, à chacun des épisodes, où on s'étend, ça peut durer entre 5 et 12 minutes. Donc, top. Je vous propose qu'on parle vraiment du début, avant d'en arriver à la fin, vraiment à maintenant, à ce que vous faites. Maxime, toi, tu suis une formation en entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous partager un peu quel type d'enfant tu étais et si tu avais déjà ce goût pour l'entrepreneuriat très jeune, et on va comprendre un petit peu comment vraiment cette passion est venue pour chacun de vous, on va essayer du moins.
Ouais, enfant, j'ai toujours été très curieux, je suis encore maintenant, j'aimais bien comprendre comment les choses fonctionnaient, pourquoi on les mettait en place, etc. J'étais un grand fan de C'est pas sorcier. Malgré tout, j'étais au niveau scolaire, j'étais pas très bon parce que en fait, j'étais juste pas intéressé. J'avais du mal à rentrer dans un cadre où on me disait d'apprendre pour apprendre, pour recracher par la suite. Donc j'ai toujours eu un peu de mal avec les études. Je me suis toujours un peu laissé porter, mais j'ai toujours eu envie de créer quelque chose, ça doit venir aussi de l'entourage familial. Et donc, ouais, l'entrepreneuriat, je me voyais pas vraiment entrepreneur étant plus jeune, ça a paru un peu plus tard, fin de l'adolescence, mais je sentais que j'avais envie de faire quelque chose moi-même et pour pouvoir garder une certaine liberté dans mon travail.
Mmh. On va comprendre que justement, à travers tes projets, ça s'est vraiment exprimé par la suite, ce goût pour l'entrepreneuriat. J'ai vu ça à travers mes recherches, mais je ne vais pas spoiler. Et justement, j'aimerais comprendre, en comparaison, Julien, qui maintenant entreprend dans la santé, toi, tu as suivi une formation qui est pas du tout, qui te destinait pas vraiment à entreprendre, même pas du tout.
Non, pas du tout, ouais.
Et ça m'intéresse de comprendre, est-ce que toi, tu sentais que tu voulais créer quelque chose avant? Est-ce que tu avais ce truc qui titillait et tu avais juste pas l'idée ou pas ressenti le besoin? Et comment c'est venu en fait?
Perso, j'ai très rapidement été vexé des études de médecine parce que c'était très passif comme comportement, tu vois. On apprenait beaucoup de choses, mais on créait pas grand-chose. Tout était déjà écrit, il y avait juste à comprendre et appliquer. C'est pour ça qu'entre la troisième et la quatrième année de médecine, j'ai fait une pause sur ma médecine et j'ai fait de la recherche fondamentale sur une molécule dans l'AVC. Mmh. Et là, j'ai compris qu'en fait, le champ des possibles était beaucoup plus large que juste entre guillemets soigner des patients. C'était soigner, mais à peut-être trouver comment mieux soigner, tu vois. Et donc ensuite, en regardant les temporalités et l'impact que je pouvais avoir à 22 ans dans un grand labo quand j'étais tout petit, quel impact je pourrais avoir sur un projet versus monter une boîte, je me suis dit ok, on va tenter d'avoir un impact fort. Et si ça marche pas, et ben peut-être qu'on reviendra sur de la recherche plus avec une temporalité plus longue où t'es plus encadré.
Mmh. Ok, donc intéressant. Et donc, est-ce que toi, tu avais déjà, on va dire, eu des aventures familiales dans l'entrepreneuriat? Ou est-ce que, tu vois, on sait que Maxime, ça venait un petit peu de là. Est-ce que toi, t'es dans une famille qui est que dans le médical ou,
Non, pas du tout. J'ai une maman qui a repris l'entreprise de son père, mon grand-père. Qui maintenant la dirige depuis une vingtaine d'années, tu sais, un modèle très très classique d'une entreprise familiale qui tourne, versus mon papa qui lui a commencé à la chaîne en 3-8 chez Peugeot et à force de travail a réussi à monter tout doucement les échelons, mais il m'a démontré qu'il fallait bosser plus intelligemment dès le début pour pas faire 25 ans d'industrie avant d'arriver à quelque chose où en fait peut-être en 3-4 ans t'aurais réussi à le faire. Donc j'ai tout de suite compris qu'on pouvait peut-être mélanger les deux, le fait d'être travailleur avec le fait d'être travailleur et d'emmener les gens avec toi. Et puis au fur et à mesure de mes expériences, on en parlera tout à l'heure, professionnel, j'ai compris que y avait moyen de créer quelque chose, quel que soit le profil et l'origine. C'est vraiment ça qui m'a déclenché l'envie.
Ouais. Je pense qu'on parlera à un moment des sources d'inspiration. Je pense que c'est un sujet intéressant et souvent moi je les garde pour moi, enfin je les découvre notamment à travers plein de podcasts, mais c'est intéressant de voir comment l'environnement dans lequel on grandit nous façonne et façonne les entrepreneurs. Et toi justement j'aimerais comprendre Clément, pourquoi toi t'as fait un choix de parcours dans le web et finalement là t'es dans la santé. Est-ce que c'est un truc qui était familial ou est-ce que c'est plus un besoin que tu as ressenti? Comment ça t'est venu un petit peu cette envie d'entreprendre dans la santé?
Ouais. Moi tout est né, moi c'est né très jeune pour le coup, hein. À l'âge de 3 ans du coup j'ai commencé à être atteint de ma pathologie. Donc la maladie de Crohn, donc je l'ai eu jusqu'à 18 ans, 19 ans, je crois. Après j'ai commencé à être en rémission, donc là aujourd'hui j'ai plus rien. Mais c'est à partir de là, tu sais, où quand t'as vécu toute ta vie en étant malade, et que tu deviens d'un coup, j'ai envie de dire normal, tu as l'impression que tu as
Ouais.
perdu quelque chose. Tu as l'impression qu'il te manque un truc en toi. Et j'avais envie de continuer, en fait, à, je sais pas, aider des malades. Enfin, je voulais pas que ça se termine comme ça. Je voulais pas que les autres ne puissent pas bénéficier, en fait, de mon expérience, etc. Et c'est en fait, tout est né de là, en fait, le côté partage d'expérience, etc. J'ai fait pas mal de choses dans des assos, mais qui m'ont pas forcément plu, qui n'étaient pas forcément, qui n'étaient pas forcément destinés pour moi. Donc, j'ai commencé, voilà, à ce moment-là, à entreprendre beaucoup. Et en fait, j'étais en terminale à l'époque quand j'ai eu l'idée de Sun, donc la boîte dans laquelle je travaille là, actuellement. Et le problème, c'est que je voyais bien qu'il me fallait des compétences techniques. Même pas technique, même côté marketing, communication, etc. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas se tourner vers une école du web? Pour le coup, je ne savais pas vraiment, enfin, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Autant, il y a une époque, je voulais faire médecine, mais bon, je savais que c'était pas fait pour moi. J'aurais jamais pu tenir la cadence. Mais du coup, ouais, une école du web, ouais, c'était ce qui se profilait, c'était ce qui était le plus avantageux pour faire ce que je voulais. Et ça a plutôt bien réussi pour le coup, hein, mais voilà.
Ouais, intéressant, intéressant et complètement différent du coup de Julien et Maxime. Moi, j'aimerais comprendre justement quelle est votre vision des études et est-ce que vous vous sentez suffisamment formé et surtout comprendre vous comment vous allez en fait chercher des sources d'apprentissage pour entreprendre dans la santé. Qui est, je pense, une des formes les plus difficiles d'entrepreneuriat parce que c'est pas du e-commerce, c'est pas juste un petit projet sur le côté, c'est-à-dire qu'on va avoir un impact énorme, comme le disait Julien, sur la santé possiblement des gens, enfin, c'est le but, du moins. Est-ce que, justement, Maxime, toi, tu as le sentiment que tes études t'ont vraiment aidé ou est-ce que finalement, c'est pas tant les cours, mais plus tu cherchais un peu à avoir cette certification d'entrepreneur pour pouvoir être un peu dans l'écosystème. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, complètement. Alors moi, j'ai pas du tout compté sur mes études. À la base, je suis infirmier. J'ai une formation d'infirmier qui me convenait pas, mais on en parlera certainement par la suite. Et ensuite, j'ai fait un master dans la recherche médicale. Et c'est là que j'ai créé ma première boîte, donc dans l'écologie. Et j'avais aucune compétence technique de création d'entreprise du domaine dans lequel j'étais, etc. C'était plus par passion, par curiosité et par envie de faire bouger un peu les choses. Et donc j'ai appris pas mal de choses sur le tas. Et je suis assez partisan de l'idée qu'on peut tout apprendre comme ça. Alors on perd du temps hein, aussi, on fait beaucoup d'erreurs, mais c'est comme ça qu'on apprend et on les fait pas par la suite. Et en fait, ce premier projet m'a fait comprendre que l'entrepreneuriat, c'était vraiment ça qui m'animait. Et c'est pour ça que j'ai rejoint le master entrepreneuriat à HEC. J'ai appris des choses là-bas dont j'aurais pu me passer, hein, très clairement. J'aurais pu comprendre ça par moi-même, mais ça a été surtout des rencontres de mes associés, entre autres. Et c'est surtout un état d'esprit que ça nous apporte où avant, j'étais dans l'esprit de monter une petite boîte qui marche pas trop mal, qu'ensuite je crée une boîte un peu plus grosse, etc. Et en fait, quand j'ai fait ce master-là, on m'a fait comprendre que demain, je pouvais créer le prochain Google et qu'il n'y avait aucun problème à ça. Ce qui est vrai, en fait. C'est juste qu'on se met des barrières mentales qui ont pas lieu d'être. Et ça a aussi permis d'accéder à un écosystème de VC, etc., où on te fait un peu rêver, on te fait comprendre que tu peux faire un truc très gros. Alors, ça va pas être simple, mais ça te donne le goût de l'ambition que j'avais pas forcément avant.
C'est intéressant ce que tu dis. Je sais plus si c'était une étude qui avait été faite, enfin qui montrait qu'en gros, les levées de fonds effectuées par des ex-HEC étaient forcément plus grosses et que c'était une sorte de, je sais pas, d'état d'esprit, d'ambition qu'on insufflait, qu'on donnait en fait à ces étudiants. Et justement, j'aimerais comprendre comment un peu les autres l'ont vécu, notamment Julien. Voilà, toi, tu nous as dit t'es pas en médecine, c'est vraiment pas une filière qui encourage à ça. Comment toi tu vas justement t'inspirer, comment tu vas rencontrer des gens alors que t'es pas dans l'écosystème de l'entrepreneuriat actuel, enfin dans
Ouais, c'est
lequel tu
clair.
peux évoluer. Est-ce que tu as des clés toi pour t'inspirer et grandir en fait en tant qu'entrepreneur. Hello, j'espère que cet épisode te plaît. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner au podcast et si tu es sur Apple Podcast, à laisser une note de 5 étoiles et un commentaire. Cela ne te prendra que 5 secondes et cela me ferait énormément plaisir car cela aide un maximum de personnes à découvrir mon travail. Bonne écoute sur Entreprendre dans la Santé.
Ah, j'essaye de regarder ce que font, je pense que c'est pareil pour vous, hein, c'est de regarder un peu mes modèles. Tu vois, il y a Alan, il y a Payfit, il y a Comet. Je regarde un peu les modèles et j'essaie de retracer c'était quoi les leviers qu'ils ont activés, de quoi ils se sont entourés pour avancer là-dessus. Ce que je trouve intéressant sur effectivement ce papier que j'avais vu sur les levées de fonds d'ex-HEC, mais pareil pour Polytechnique ou Harvard dans une plus grande mesure aux États-Unis, c'est en fait ce que je trouve intéressant, tu vas me dire ce que t'en penses Maxime, mais c'est pour avoir été un peu à HEC, c'est que en gros, ils remettent en cause le statu quo. C'est que il y a pas de limite. Et quand on a compris ça et qu'on a un bagage en santé, un minimum, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on remet tout en cause. Et tout remettre en cause, c'est là qu'on va chercher les belles innovations de demain sur la santé. Alors effectivement, faire des belles boîtes, ça demande de la structuration. Ça, par exemple, moi, je ne l'ai pas du tout dans mes études. On ne m'a jamais appris à faire de la comptabilité, on ne m'a jamais appris à évaluer un bilan, à regarder si financièrement je vais tenir. Donc j'essaye de regarder les leviers de mes exemples. Très clairement, Alan, c'est une super belle boîte. Je pense qu'il faut beaucoup s'inspirer de ce que fait Jean-Charles. J'essaie de retracer. Et puis les podcasts, c'est vachement bien hein, d'inviter plein de gens. Les tiens et même le VC Game ou des choses comme ça, c'est hyper intéressant de voir les points de vue des autres, c'est de ça que je m'inspire. Après, c'est vrai que c'est difficile, je trouve qu'il y a une vraie barrière Paris versus province déjà. Mm-hmm. Tu vois.
Ouais. Toi, pour planter un peu le décor, toi Julien, t'es en Normandie, t'es à Caen ou à Rouen?
Je suis à Caen et c'est compliqué parce que en fait, même le bassin de recrutement. Même le bassin de recrutement est compliqué. Quand tu veux lever ici, c'est difficile d'aller au-dessus de 200 000. 200, ouais. 300, c'est compliqué. Donc, tout de suite, tu vas chercher des fonds parisiens ou des fonds nantais. Donc, la stimulation intellectuelle n'est pas la même. Même si on a des beaux incubateurs ici, c'est compliqué. C'est compliqué de s'entourer. Ouais.
Et justement, Clément, moi ça m'intéresse de parler un peu de l'autre aspect donc de l'entrepreneuriat en santé, c'est la santé. Donc toi, on a bien compris que ça venait d'un besoin personnel, mais comment tu vas, comprendre les clés de la santé? Est-ce que, d'avoir le statut, je ne sais pas si ça s'appelle patient expert, ou comment tu vas... un peu te faire une place dans l'écosystème alors que t'es entre guillemets juste étudiant dans le web. Est-ce que t'as des clés justement pour te faire un réseau pour
Ouais, c'est bon, alors LinkedIn hein, la base. Je pense que là, ouais. Je pense que c'est pour tout le monde, pareil pour Julien et Maxime, puis même pour toi.
C'est clair.
En fait, pour le coup, J'ai dû apprendre tout seul. Le côté autodidacte est très important, autant à se faire un réseau, autant même dans la santé. Enfin, dire c'est quelque chose d'hyper méga complexe entre les réglementations. Enfin, c'est un monde. Surtout bon, je parle pour moi, mais tout ce qui est application mobile, on a la RGPD, on a etc. Enfin, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses à savoir. Après, bon, pour le coup, faut juste en parler. Faut en parler beaucoup, 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 beaucoup. Moi, j'ai eu la chance aussi d'être pas mal accompagné dans mon école. D'avoir des personnes dans mon administration qui étaient d'anciens entrepreneurs, alors pas du tout dans la santé hein, mais bon, qui connaissaient forcément d'autres entrepreneurs dans la santé, donc forcément ça crée des liens, ça met en relation etc. et ça te permet d'avoir d'autres liens. J'ai fait aussi pas mal d'associations, donc là aussi j'ai gardé quelques liens avec mes médecins, d'anciens pédiatres, donc bon, en fait finalement ça se fait de fil en aiguille. Après ça prend du temps. C'est-à-dire que il faut convaincre, c'est pas ça. Facile, c'est voilà, ça, ouais, ça prend du temps, mais c'est pas inatteignable. Et puis si le projet, si les gens sentent que le projet est viable, bon, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Les gens suivront et viendront vers toi Sans souci. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, mes associés, c'est des gens qui ont cru et qui croient en moi, etc. Et voilà, ça marche très bien.
Justement, toi, on va parler un peu des expériences pro. Toi, tu as bossé en freelance en tant que product manager. Est-ce que ça t'a un peu déjà donné un avant-goût de l'entrepreneuriat, éventuellement, le fait de travailler en freelance? Est-ce que tu as vraiment acquis des compétences que tu utilises maintenant?
Oui, non, oui, on va dire dans la gestion de projet. C'est toujours quelque chose d'important de savoir structurer, de savoir. Ça, c'est compliqué, hein, parce que bon, quand on bosse tout seul, bon, c'est facile, hein, on se gère, on s'autogère. Quand on doit commencer à gérer toute une équipe, etc., là, c'est moins marrant. C'est déjà beaucoup plus complexe, surtout à 22 ans. Surtout à 22 ans, quand tu dois gérer des personnes qui ont 30, hein, c'est déjà pas la même facilité, c'est différent. Donc oui, ça apprend la gestion de projet. Mais après,
Bah,
voilà, compétences techniques, non, pas forcément.
Et du coup, avant qu'on parle un peu de vos projets plus en détail, justement, Maxime, toi, tu avais déjà lancé une box dans la permaculture, c'est ça? Est-ce que tu peux nous partager, toi, quels étaient tes grands apprentissages sur l'entrepreneuriat? Et est-ce que tu as des chiffres? Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as quitté un peu cette aventure-là?
Alors, premier renseignement, il faut jamais faire de B2C. non, je plaisante. En fait, je partais vraiment de rien, donc j'avais tout à apprendre au niveau juridique, légal, comprendre son marché, et n'y connaissant rien, j'y suis allé un peu au culot avec beaucoup de chance, ce que j'ai pas du tout fait pour Mediflash. En fait, j'avais l'idée en tête et je me suis dit, bah, je vais le faire et on verra bien ce qui se passe. J'étais un peu dans l'idée de me dire que j'avançais dans ce projet, donc il fallait investir un petit peu d'argent, mais j'y allais comme si j'allais au casino en me disant cet argent-là est perdu, mais au moins j'aurais appris quelque chose, et si ça marche, tant mieux, je le récupère, mais c'était pas du tout cet état d'esprit-là. C'était plus une question presque d'ego, en voulant prouver mon idée et prouver qu'elle était la bonne. Donc j'ai créé Permabox, c'était pendant mon premier master. L'idée, c'était que chacun puisse faire son potager à domicile de la manière la plus écolo possible pour que on puisse réduire le bilan carbone de notre alimentation et éviter de faire venir des tomates d'Espagne, etc. Mais j'avais malgré tout trois contraintes. C'est qu'il fallait que ça ne me prenne pas trop de temps pour que je puisse faire ça à côté de mes études, que ça me coûte pas trop d'argent, parce que j'étais étudiant, et que ça ait un lien avec l'écologie. Donc tout ça cumulé a fait Permabox. Et en fait, en testant le produit, je me suis rendu compte qu'il y avait des retours plutôt positifs. Et en fait, on voit aussi ses limites. Moi, je sais que je suis très mauvais en communication, en design, etc. Et donc du coup, je savais que je ne pouvais pas reposer uniquement sur mes compétences pour ça. Et donc au lieu de vendre moi-même, dans le B2C, il faut aller convaincre chaque client. Je me suis adressé à Nature et Découverte, entre autres, par la suite Greenwiz, qui ont aimé le produit et qui l'ont mis en vente sur leur marketplace. Et donc, en fait, j'avais plus besoin de faire tout ce côté com marketing qui ne me correspondait pas. Et ils s'en chargeaient eux, et ça me permettait de faire des ventes. Alors, par contre, tu leur prends une partie de tes revenus, hein, très clairement. Mais ça m'enlevait une épine du pied. Et au bout d'environ 2 ans, je pensais avoir un peu fait le tour du produit. J'aimais bien tout le côté créatif, partir de rien, arriver au produit fini. Et j'arrivais à un moment où je créais plus grand-chose et je faisais que gérer des commandes. Et donc là, j'ai senti qu'il était temps de passer à autre chose. Et en plus, je commençais un peu Mediflash, donc il fallait que je me dégage du temps. Du coup, j'ai revendu Permabox, qui est toujours actif, en début 2020.
Ok, hyper intéressant. C'est dommage, c'est pas exactement le sujet et on est plusieurs, du coup, on va passer à la suite. Mais juste, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe rapidement? Parce que je pense que tu es le seul là qui a eu une aventure vraiment entrepreneuriale jusqu'à la revente. Comment ça se passe la revente très concrètement? Et si tu avais un conseil à partager là-dessus?
Alors, il faut comprendre pourquoi on revend. Moi, j'ai fait l'erreur de revendre parce que j'en avais marre, et donc du coup, on a envie d'aller très vite, et c'est là qu'on fait des erreurs, notamment sur le prix de la revente. Les deux grosses problématiques, c'est le prix qu'on donne à l'entreprise et qu'on veut en tirer, et trouver l'acheteur. Parce qu'en fait, alors les experts comptables vont vous dire, voilà, vous prenez votre bénéfice, vous faites x1 coefficient multiplicateur du domaine et vous avez le prix de votre boîte. Moi, j'ai fait ça et en fait, le prix de votre boîte, c'est ce que le mec qui la rachète veut bien mettre quand il y a peu de personnes qui se présentent. Donc, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de trouver cette personne. Et c'est un peu compliqué parce que d'un côté, il faut que vous trouviez la personne qui veut l'acheter sans trop communiquer sur le fait que vous vendiez votre boîte parce que ça va lui faire perdre de la valeur. Et donc du coup ça va vous servir. Mais une fois que vous avez trouvé cette personne, c'est juste un échange cordial avec cette personne et voir trouver un point d'entente. Si vous trouvez un point d'entente, tant mieux. Sinon, il faut continuer ce projet tant que vous pouvez. Et c'est là que c'est un problème quand vous en avez vraiment marre, parce que du coup, ce temps peut être très long. Et puis, si jamais vous n'arrivez pas à vous accorder sur la revente, il faut arrêter l'entreprise, ce qui me paraissait moi dommage. Et donc, j'ai cette entreprise à... Enfin, j'ai pas gagné grand-chose dans l'affaire, mais c'était pas du tout l'objectif. Je suis très content que ça se poursuive. Et il y a toujours cette dimension environnementale. Mais c'est une vraie contrainte. Si on est dans l'esprit de vouloir revendre sa boîte, il faut anticiper très tôt. Et ce que fait mon père qui m'a donné cet enseignement, c'est que en fait, il a embauché son bras droit en se disant qu'il avait les capacités de pouvoir racheter la boîte à terme au moment où il partira à la retraite. Et je pense que ça peut être aussi un bon compromis.
D'accord. Ok. C'est intéressant, c'est hyper intéressant. Justement, on va continuer sur la suite, donc les prochaines expériences. Je crois que Maxime a perdu la connexion, mais c'est pas grave, ça fait partie du live, on va dire. Ouais, c'est le live. Pour l'info, Maxime est au Costa Rica et je crois qu'il enregistre depuis une voiture. Donc, c'est pas les meilleures conditions, mais... C'est cool, merci pour son témoignage. On va parler un peu des expériences pro et du passage à l'entrepreneuriat. Toi, Julien, tu peux nous dire un petit peu donc, depuis quand tu entreprends ? Il me semble que tu es parmi ceux qui entreprennent depuis le plus longtemps, on va dire avec Samdoc Technologies. Qu'est-ce que tu as retenu de tes expériences pro ? Donc toi, tu as bossé en CHU et tu as fait un stage du coup à l'INSERM en recherche, tu nous as dit. Et est-ce que ça t'a aidé pour la suite ? Est-ce que t'as pu y trouver des compétences ? On a compris concrètement que c'était pas l'impact que tu souhaitais avoir et surtout c'était sur une période de temps trop étendue, on va dire.
Ouais, c'est ça, clairement. En fait, il y a eu vraiment deux phases. Il y a eu la première partie d'expérience professionnelle qu'on essaye de se faire, tu sais, à 16-17 ans, quand tu fais des saisons. Moi, j'ai fait le choix de travailler chez McDonald's. Alors, ça fait souvent rire, mais j'ai beaucoup appris en termes de process. Parce que clairement, c'est un exemple mondial de processisation d'un business à grande échelle. Donc, j'ai compris qu'on pouvait tout processer et qu'on pouvait apprendre à des gens à faire des process. Ensuite, j'ai vu la mise en place de process en santé et la complexité que ça avait au sein de l'hôpital. Et pour finir, dans la recherche, j'ai compris que mettre des process, parfois, ça bridait l'esprit. Donc, tu vois, en fait, j'avais cette sorte de triptyque avec un business que je pouvais prendre comme exemple qui a explosé et hyper processé. Un hôpital qui est entre deux, qui me démontre qu'en fait les process c'est bien, mais ça permet en fait de sortir du process et vraiment de s'adapter aux patients. Et la recherche où là il en faut pas. Clairement il en faut pas pour créer de belles choses. Ce que j'ai appris à l'hôpital et en laboratoire, c'est que il fallait être curieux. Les gars le disaient dans la présentation, être curieux, c'est avant tout, je pense, avoir un regard critique sur ce qu'on fait et se dire ok, on peut peut-être mieux le faire, et en permanence se dire ça. Samdoc, ça a commencé courant 2018, on a vraiment commencé à travailler sur le projet début 2019, la société existe depuis fin 2019, et au fur et à mesure, la seule chose qui nous a sauvés à chaque fois qu'on était dans la galère, c'était de se remettre en question et de se dire ok, mais pourquoi on le fait. C'est toute cette notion, Oussama Amar le dit beaucoup, la vision, la mission. Si t'es pas focus là-dessus et si tu sais pas pourquoi tu le fais, t'es incapable de te remettre en question, parce qu'au fond, quand on rentre dans les réseaux et qu'on en discute, tout le monde a une idée sur ton projet. Donc si tu sais pas où tu veux aller, Et parfois, j'ai retrouvé ça en médecine. C'est pour ça que, en santé, j'ai retrouvé la perte de sens. Pourquoi est-ce qu'on remplit à papier? Est-ce que c'est pour que le médecin qui va pouvoir le relire, le médecin généraliste qui va coordonner les soins, puisse avoir correctement toutes les informations? Est-ce que c'est pour que le patient puisse comprendre sa pathologie, ou est-ce que c'est pour se couvrir auprès des assurances? Et parfois, tu vois, je trouve que la perte de sens, elle peut vite arriver. C'est ce que je retiens en partie de mon expérience pro.
Ok. Bah c'est des apprentissages, c'est intéressant, c'est vraiment très très spécifique à tes expériences, et je pense que c'est ouais non c'est vraiment intéressant de les comparer à d'autres retours que j'ai eus d'entrepreneurs qui disaient à peu près la même chose, tu vois, quand ils viennent du médical, qu'en fait c'est très souvent le fait de parler avec les patients, de voir l'impact qu'on peut avoir sur leur quotidien. Et je pense que Clément pourra nous en parler aussi. Mais concrètement, c'est vraiment ça, c'est le but,
Clairement.
c'est ce que tu veux accomplir à travers toutes tes petites actions du quotidien. Enfin, je sais pas si vous avez lu The Compound Effect, enfin l'effet cumulé. En gros, c'est vraiment la force de tout ce que tu fais au quotidien, de tous ces petits efforts qu'il faut qu'un jour, ça va payer, et c'est
C'est
en gardant
clair,
cette
c'est clair.
vision que
J'ai
tu
un
vas.
professeur à Caen qui dit que c'est pas les livres qui t'apprennent la médecine, c'est les patients. Et c'est vrai, et quand j'entends Eric Topol dire je veux que dans 10 ans, on passe 13 minutes avec le patient et puis 13 minutes dans les dossiers sur 15, il a raison. Elle est là la clé.
Clément, toi, j'aimerais comprendre comment progressivement tu en es venu, en fait. Si on a bien compris, tu t'es lancé assez tôt, en fait, dans Senap, et comprendre comment ce switch, s'il y en a eu un, on va voir si tu es maintenant à temps plein dessus, mais comment ça s'est effectué, en fait, c'est quoi les grandes étapes pour se lancer?
Alors ça, c'est très compliqué. C'est vrai que l'idée, je l'ai eue, comme je vous l'ai dit, c'était quoi, faire 19 ans, mais je ne l'ai pas lancé tout de suite. C'est-à-dire que l'idée est là, mais tu as toujours peur de te lancer, en fait. C'est de te lancer dans le grand bain, de sauter un coup. C'est compliqué parce que c'est vrai que tu te dis, déjà tu as 19 ans. Donc d'ailleurs, je pense que ça a pu arriver à Julien, à Maxime. Quand t'es jeune, t'as un peu peur de te lancer dans ce genre de projet.
Oui, tu doutes.
Puis tu te dis, waouh, qu'est-ce qui va m'attendre? Surtout dans un secteur comme la santé, moi je savais un peu à quoi m'attendre. Donc je me suis dit, oh, on va faire attention. Mais finalement, après, bon, voilà, j'ai rencontré mes associés, j'ai rencontré des personnes qui m'ont encouragé dans cette voie, à force d'en parler, à force de, voilà, à force d'en vouloir, en fait. Puis même, moi, j'ai énormément d'amis qui sont des patients ou d'anciens patients, parce que maintenant, ils sont tous en rémission. Et ces gens-là te disent que ce projet vaut tellement le coup que, t'as forcément envie de te lancer. Et à un moment, tu te dis, bon, si je peux avoir un impact sur la vie des gens, ça vaut peut-être le coup
Ah,
de le faire.
c'est clair.
Ça vaut peut-être le coup de
Ok.
le faire. Et je reviens sur ce qu'a dit Julien. C'est vrai que, un médecin doit forcément écouter, doit écouter son patient, et je pense que c'est pas le cas de tout le monde, mais du coup, ouais, c'est quelque chose de très important.
Ouais, c'est compliqué, hein, tu sais, Clément, parce que
Ouais.
souvent on sait pas trop pourquoi on remplit les. Même en tant qu'externe, hein, moi je suis que externe, parfois je remplis des comptes rendus médicaux, des choses comme ça. Et en fait, la cible, si on devait considérer ça comme un exercice de communication, la cible, elle est pas forcément facilement définissable.
Ça,
C'est
c'est sûr.
t'essayes de mettre des mots pas trop compliqués parce que tu sais que ça va être relu par le patient. T'as des mots qui font peur, t'as Doctissimo en face, et les heures à rechercher sur Doctissimo et pas forcément comprendre. Donc c'est compliqué, hein. Ouais, c'est clair.
Doctissimo, est très compliqué, ça.
Ça me rassure votre vision, parce que ce manque de temps passé avec le patient, c'est vraiment ce qui m'a fait changer de profession, entre guillemets, et j'ai souhaité pas faire infirmier parce que je passais pas assez de temps avec les patients et j'avais pas le côté social et relationnel que j'attendais du métier.
C'est vrai que c'est plus important, en fait, finalement.
Justement, Maxime, toi, en tant qu'infirmier et après ben, entrepreneur, on va dire, comment ça s'est passé le switch à l'entrepreneuriat dans la santé notamment? Comment tu vas tout simplement te faire une place dans cet écosystème qui est nouveau pour toi dans l'entrepreneuriat? Est-ce que tu vas rencontrer des gens au tout début? Tu vois, j'aimerais comprendre à la phase d'idéation, comment tu vas comprendre ce besoin, comment tu es allé en parler avec des professionnels de santé pour lancer Mediflash par la suite.
Alors sur l'idée, c'est assez simple, en fait ça partait de mon expérience. Quand j'ai fait mon premier master, j'ai beaucoup bossé en intérim et ça se passait pas très bien niveau relations humaines avec l'agence et niveau rémunération. Et donc du coup j'ai voulu changer ça, donc on est parti là-dessus avec mes associés, on voulait faire une agence d'intérim assez classique, un peu plus humaine, un peu plus tech, et on a fait nos interviews consumer. Ce que j'invite tout le monde à faire. Donc d'une part, nos clients sont les établissements de santé. Donc on a interrogé à peu près 70-80 directeurs d'hôpitaux, responsables des ressources humaines, etc. Et ils nous disaient tous clairement que l'intérim, ils l'utilisaient parce qu'ils n'avaient vraiment pas le choix, mais que ça leur coûtait trop cher. Enfin bref, ils nous ont fait part de tout ce qui ne leur convenait pas. Donc en fait, on s'est rendu compte que c'était pas ça la solution. Et après, on a interrogé les soignants sur ce que eux voulaient. Donc en général, c'est des meilleures conditions de travail. Alors ça, à part être directeur d'établissement de santé, c'est un peu compliqué de le mettre en place de manière extérieure. Et de meilleures rémunérations. Donc on a cumulé tout ça. Et on a beaucoup discuté avec nos concurrents. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux donner aux futurs entrepreneurs. Parlez à vos concurrents, dites-leur ce que vous voulez faire. On a toujours l'idée de se dire qu'ils vont nous piquer notre idée ou autre, mais il faut vraiment en parler avec eux, ils sont souvent de très bons conseils. Et on va discuter avec des concurrents qui font à peu près ce qu'on fait, mais dans un autre domaine, et qui nous ont convaincus que ce qu'on imaginait était une bonne chose, parce que ça permettait d'une part d'augmenter significativement la rémunération des soignants, c'est ce qui nous tenait vraiment à cœur. D'autre part, de baisser le coût pour les établissements de santé, de leur faciliter la vie au niveau administratif. Et en fait, on a testé une première fois avec un établissement de santé qui nous a dit que c'était très bien, niveau facilité administrative, c'était top pour eux, et le soignant était hyper content de sa rémunération. Donc on s'est dit, si tout le monde est content, faut se lancer. Et on s'est lancé comme ça, après c'est assez récent, on s'est lancé le 1er août 2020.
Ok. Intéressant, c'est énorme. Enfin, je sais pas, ça me paraît beaucoup. Tu vois, 70-80 interviews, c'est pas mal. Et Julien, toi, c'est quoi ton expérience là-dessus sur l'idéation et vraiment la compréhension du besoin? Parce que toi, t'as un produit du coup qui est quand même. On n'est pas sur du software, si j'ai bien compris. On fait intervenir le device, les smartphones, donc tu m'avais expliqué, mais c'est quelque chose d'un peu plus complexe qui va sûrement mettre plus de temps à développer que juste un software. Est-ce que tu as des clés toi pour comprendre un besoin?
En fait, c'est intéressant ton point de vue, Maxime, parce que j'ai fait la même chose, sauf que l'erreur que l'on a faite avec Thomas, mon cofondateur, au début, c'est qu'on a interrogé des professeurs, des médecins de différentes spécialités. Donc, en fait, chacun avait un besoin sur le visage ou le corps différent. Donc là, tu te retrouves, moi j'avais 20 ans à l'époque, j'avais une techno, j'étais sûr qu'on pouvait l'utiliser à grande échelle dans la santé. Mais il n'y a pas d'axe de tir prioritaire. Bon. Donc, je continue à creuser. Et puis, en fait, dans l'idéation, on a fait une cartographie très simple de tout ce qu'on pouvait faire avec notre technologie, de tous les besoins en santé qu'on avait identifiés. On a couplé à ça des papiers scientifiques qui démontraient qu'il y avait un intérêt médical. On a essayé de chercher les leviers, le service médical rendu qu'on pouvait apporter et la viabilité économique de chaque idée. On a hiérarchisé en temps de développement. Et puis on s'est dit, en fait, c'est pas compliqué. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que demain, il y ait des yeux sur tous les patients. OK, mais pour ça, pour faire ça, soit on démarre et on est milliardaire, soit on fait nos preuves. Donc on a décidé de faire un premier produit qui a un besoin qui est hyper simple, pour faire nos preuves, montrer qu'on est capable de commercialiser, faire tout un cycle pour avoir demain les moyens d'étendre, tu vois. Mais la problématique de comprendre ce que le marché veut, En santé, quand on arrive avec une nouvelle techno, elle est complexe parce qu'il y a toujours plein de gens qui ont plein d'idées, surtout dans les CHU, ils font de la recherche. Et faire de la recherche, ça veut dire être imaginatif aussi. Donc, ouais. Ça a été compliqué. Ouais.
Donc, tu nous parles là d'un proof of concept, c'est ça ?
C'est ça. C'est ça. La première étape, ça a été de prendre un device, mettre mon visage dessus, regarder les données que je pouvais en sortir, comparer à ce que la science voulait avoir comme entrée pour pouvoir déterminer la douleur, mais autre chose, et comprendre que je pouvais en faire quelque chose. Regarder autour la concurrence, voir que personne n'avait pris l'axe de tir, regarder les solutions qui existaient actuellement pour évaluer la douleur en réa, et comprendre que c'était quelque chose de... Et là, je vais citer un professeur du CHU de Caen, c'est une solution archaïque, c'est la moins mauvaise qu'on ait. Donc, se dire que, bah, ok, on a un problème, on a une belle solution techno, il y a moins de 18 mois de développement, il y a le marquage CE derrière, bon, bah, faut y aller. Et au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a plein de belles portes qui s'ouvrent, mais j'avoue que l'étude de marché au début, elle a été très complexe, très, très complexe.
Est-ce que tu es justement allé parler avec tes concurrents? Parce que ça, c'est une question, tu vois, qui me parle pas mal en termes de propriété intellectuelle, notamment. J'imagine que c'est quelque chose d'assez critique pour toi, Julien. Ouais. Comment tu as abordé cet aspect-là ?
En fait, nous, on a considéré qu'à partir du moment où on n'avait pas assez d'avance sur eux pour que le pivot pour nous rattraper soit trop important, on n'a pas discuté avec eux. On commence tout juste, tu vois, à discuter avec des concurrents slash partenaires, parce qu'en fait, ça se rejoint beaucoup hein, dans ce domaine. Quand tu as affaire à des gros industriels, au final, ils peuvent être concurrents comme acquéreurs rapidement. Et en fait, c'est un choix qui à la fois a porté ses fruits sur le fait d'étonner les possibles concurrents sur ce qu'on fait, et à la fois nous ferme des portes, parce qu'au fond, il y a des compréhensions de marché que eux ont, que nous n'avons pas encore. Donc c'est un choix qui est pas facile. Je sais pas comment vous l'avez géré, vous, Clément et Maxime, mais enfin nous c'était vraiment un truc, la concurrence, c'est un truc qu'on a eu beaucoup de mal à définir notre stratégie dessus.
Ouais, effectivement, pour nous la concurrence c'était des très gros acteurs, typiquement les agences d'intérim, donc Adecco, Manpower, etc. Mais on s'est dit que notre solution était meilleure que la leur. En fait, on est convaincu que ce qu'on fait, c'est bien du point de vue humain. Et donc, étant persuadé de notre idée, on se dit qu'on avance et que de toute façon, le marché est tellement grand que c'est pas forcément un souci. On peut se partager le gâteau et potentiellement, on peut tirer des choses de nos concurrents et inversement, on discute souvent avec nos concurrents et on se partage des idées. Donc, on ne voit pas la concurrence comme quelque chose de néfaste.
Ah, c'est intéressant, Maxime. Et alors, comment vous faites ? Vous essayez de vous répartir le marché ? Vous essayez de trouver les propositions de valeur différenciantes ?
Alors... Il y a une seule boîte qui fait exactement ce qu'on fait, qui s'est lancée à peu près 2 mois après nous. On échange beaucoup avec eux, on s'appelle quasiment tous les mois. Et en fait, pour l'instant, on s'arrange pour pas aller sur les mêmes secteurs géographiques, pour pas se faire une concurrence frontale. On va peut-être fusionner un jour, on sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais on est en très bons termes. Et on se partage des bonnes manières de travailler. Alors, on reste concurrents, hein, donc on va pas trop dans les détails. Mais c'est au moins une bonne manière de faire pour pas avoir de soucis avec des législateurs, typiquement les RGPD, les choses comme ça, où on se conseille pas mal. Mais à part ça, c'est des échanges très cordiaux. On sent qu'on fait pas tout, mais c'est une correspondance qui est assez saine hein, entre les deux.
Mmh. Ok, ça doit être stimulant aussi comme échange de voir l'autre avancer.
Alors parfois c'est stimulant, parfois ça fait un peu peur, donc ça dépend.
On parlait de la concurrence, mais j'aimerais passer à l'équipe avant de partager les petits conseils de la fin sur l'épisode. Est-ce que toi, Julien, tu pourrais nous expliquer, parce que toi, t'as une grosse équipe déjà, comment cette équipe a évolué et comment vous êtes un peu réparti les responsabilités progressivement pour atteindre ce que vous êtes aujourd'hui. Enfin, présente-nous un petit peu les grandes étapes.
Ouais, pas de problème. Au tout début, j'ai rencontré Thomas. Là, c'était on s'est rencontré une fois au McDo, comme quoi beaucoup de choses se sont passées là-bas. Mmh. Et ça a été un coup de cœur humain. On fitait vraiment, tu vois. Donc là, on s'est dit, OK, il faut qu'on lance un truc. Il bossait sur un projet, j'avais le mien. On s'est dit, il fallait qu'on fasse un truc ensemble. On savait pas quoi, on savait pas quand, on savait pas comment, mais on savait qu'il fallait qu'on le fasse ensemble. Ensuite, on s'est débrouillé pour prendre des stagiaires alors qu'on n'avait même pas de structure juridique. Et là, on a eu un stagiaire qui était exceptionnel, qui s'appelle Camille, qui est maintenant notre CTO, qui nous a fait une POC en deux jours. Enfin, il a été exceptionnel. Et c'est là que tout a commencé parce que il a fallu structurer l'entreprise, commencer à payer un petit peu des gens. Et puis, au fur et à mesure, en fait, comment est-ce que j'ai constitué une équipe de 11 personnes maintenant? C'est que en fait je me disais de quoi t'as besoin, de quoi on a envie. Ok, on a envie d'aller traiter un peu nos données avec de l'IA et pas juste des algos en dur. Ok, on va chercher notre réseau si on a un ingénieur qui est compétent. Puis là, on a trouvé Ben, et tu vois, au fur et à mesure des besoins, on a identifié un workflow pour faire un cycle complet. C'est le cycle dont je parlais tout à l'heure, c'est de la POC jusqu'à être remboursé, quoi. C'est vraiment ce cycle, on a identifié des profils et on se dit à tel moment il va falloir qu'on ait tel profil et on essaye de construire un pipe comme ça. Comment est-ce qu'on s'entoure de gens aussi vite, parce que 9 personnes en 18 mois c'est important, surtout quand t'as jamais géré d'équipe. C'est à l'humain. Quand je regarde les entretiens d'embauche, les différentes étapes du workflow de recrutement qu'on a, la première et la dernière étape, c'est des étapes qui sont humaines. Est-ce que ça fit? Est-ce que je peux le regarder dans les yeux? Est-ce que je peux lui montrer des choses confidentielles sans avoir peur que ça sorte? Et si oui, eh bien, c'est déjà une bonne grosse étape de passer. Beaucoup de communication, une vraie culture familiale autour. La culture, c'est hyper important. Je sais pas si Clément et Maxime ont déjà des équipes, mais moi, je me rends compte que la seule chose qui fait que quand t'es dans la merde, les mecs restent en mode start-up et jusqu'à minuit, 1h du matin pour pousser en prod, c'est la culture. La culture, la vision, c'est vraiment ça qui fait que tu arrives à construire une équipe forte. Et on pourra parler des advisors après, si tu veux, Jean-Baptiste. Je trouve que c'est un point important aussi.
On va en parler après, ouais. Clément, toi, tu nous parlais de... Enfin, vous, Clément et Maxime, vous en avez tous les deux parlé, mais ouais. Clément, est-ce que toi, tu as des clés un peu à partager là-dessus ou des apprentissages sur... Donc toi, vous êtes trois, c'est ça, dans l'aventure?
J'ai 4 associés et dans l'équipe, on est 8 au total. Tout le monde n'est pas associé de Sun. Mais je reviens sur ce qu'a dit Julien, et oui, complètement, oui. Moi, au départ, tout a commencé avec des amis, puisque quand t'as... Moi, j'ai commencé, j'avais 21 ans. En fait, t'as que des amis qui peuvent t'aider, t'as aucun réseau, tu connais personne, donc forcément, c'est les premiers à venir. Et après, tu commences... Moi, pour le coup, c'est après que j'ai commencé à me structurer, quelques mois après, où j'ai commencé à connaître des gens, à avoir des besoins aussi différents et aussi beaucoup plus importants, des besoins beaucoup plus techniques. Je prends quelque chose de tout simple, hein, mais nous, on est sur un sujet qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, une application mobile, donc RGPD. Hein, là, on commence à être sur des choses en termes de data, en termes d'hébergeurs de santé. Enfin, voilà, il y a tout un monde, donc il faut s'entourer. Pareil, nous, on travaille aussi avec des laboratoires, donc forcément, là, pareil, c'est tout un monde. Hein. Les labos, c'est quand on connaît pas, c'est compliqué, donc pas pareil, on s'entoure. C'est en fait finalement on se demande où est-ce qu'on est nul, qu'est-ce qu'on connaît pas, et puis finalement on s'entoure au maximum et au mieux avec des personnes qui sont compétentes dans ce niveau-là. Mais au début, au début,
c'est toujours avoir des gens meilleurs.
C'est ça, en fait finalement moi c'est ce que je dis toujours, c'est que je suis le plus nul de la boîte, dans le sens où moi je connais, enfin j'estime ne rien connaître, et en fait c'est tout le monde qui m'apporte en fait leur connaissance, et finalement c'est une encyclopédie et moi ils m'apprennent
clairement. J'aurais toujours dit que je voulais être le plus bête de la salle. Quand on a des réunions, je veux être le plus débile. Bizarre, je sais pas,
et c'est la chose la plus intelligente à faire.
Ouais, c'est clair.
Et toi, Maxime, justement, donc vous êtes trois. Et vous avez un parcours plutôt similaire, enfin du moins, tu as rencontré tes associés via ton master. Comment vos différents profils se complètent dans cette aventure et quelles sont vraiment les compétences clés que vous apportez sur la table?
Alors effectivement, on est trois associés. Donc moi, il y a Léopold Trépoz et Stanislas Chastel. Plus après, on a une alternante qui s'appelle Adèle et pas mal de stagiaires qui sont présents et qui arrivent. Stanislas et Léopold, eux, ont tous les deux un parcours grande école HEC. Donc ils ont sur le papier des compétences un peu similaires, mais pas tout à fait les mêmes appétences. Donc moi, je suis vraiment sur le côté opérationnel, démarchage établissement de santé et soignant. Pour mon côté un peu expert entre guillemets, et après Stanislas et Léopold m'ont rejoint tous les deux justement parce qu'ils voulaient apporter des choses différentes. L'un est plutôt sur la partie financière, l'autre plutôt sur le produit, et donc du coup tout se complète bien. Malgré tout, on s'intéresse toujours à ce que fait l'autre, et je pense que Julien et Clément ont aussi cette position, toujours pour savoir comment aller de l'avant et comprendre les contraintes qu'a chacun pour pas que ça devienne des contraintes trop importantes pour la boîte pour la suite. Et donc du coup, cette répartition s'est fait assez naturellement en fonction des appétences de chacun.
Je ne sais pas ce que tu en penses, Maxime, là-dessus, mais je trouve que c'est compliqué. À la genèse d'un projet, on fait un peu tout ensemble parce qu'on a peur de se tromper, on a peur de mal faire. Et ce cap de dire « Ok, ça, c'est toi qui prends en charge. » Quand on a décidé que Thomas prenne en charge toute la partie médico-scientifique, ça a été complexe parce que moi aussi, je viens du domaine, j'avais des compétences qu'il n'avait pas, et je trouve que c'est compliqué de se dire « Ok, là, on arrête de regarder trop ce que fait l'autre, on reste cohérent et on communique, mais on a chacun des trucs à faire avec des enjeux, des gens à voir. » Ça a été vraiment une étape chez Samdoc, ça, le fait d'arrêter de faire tout ensemble et vraiment de commencer à faire ses objectifs, ses key results.
Mais alors nous, à l'inverse, alors ça s'est quand même imposé un peu naturellement. Malgré tout, on nous a très vite fait ressentir qu'il fallait des rôles bien définis, notamment quand on rencontre des VC, des business angels et autres. Ils veulent vraiment qu'il y ait l'équivalent d'un CEO, d'un CFO et d'un COO, parce que sinon ça les perd, ils ne comprennent pas trop. Et donc du coup, ça s'est un peu imposé à nous de devoir mettre des mots sur ce que faisait chacun et de définir un vrai périmètre. Malgré les appétences dont je parlais tout à l'heure de chacun.
Et justement, pour parler de cette répartition des rôles, et moi j'aimerais qu'on parle un peu du contrat d'associé, et notamment quand on est ami. Donc Clément, tu nous disais que toi tu t'es associé donc à la base avec des amis, parce que c'est ce qu'on a, c'est ceux qui sont au quotidien avec nous quand on se lance. Quels sont les challenges quand on entreprend avec des amis, avec des personnes proches? Est-ce qu'on a des craintes? Et un peu, quelle est la réflexion que tu as pu suivre? Tu vois, s'entourer de ses amis, c'est différent de s'entourer de ses camarades de promo, un peu comme Maxime a pu le faire, où voilà, eux, peut-être, se connaissaient juste, on va dire, du master. Toi, je ne sais pas si c'était des gens que tu connaissais d'il y a longtemps. Mais j'aimerais que tu nous partages ton expérience là-dessus.
Alors quand j'ai dit amis, voilà, ce sont des personnes que j'ai rencontrées dans le master, pareil. Mais je me suis associé parmi les trois autres associés avec une seule qui fait partie du master. Les deux autres sont des personnes que j'ai rencontrées via le réseau et des personnes qui ont dans la trentaine, donc qui connaissent des sujets divers. Mais pour revenir du coup, quand on s'associe avec des amis, oui, c'est compliqué parce que tu te poses des questions en mode il faut pas s'engueuler, voilà, pour parler un peu familièrement. Ça peut être un peu tendu, etc. Mais bon, je connaissais. Enfin, si on connaît bien la personne, si on sait. Moi, je sais que c'est une personne à qui je peux tout dire. Elle peut tout me dire. Donc, sans se vexer, tu vois, on se vexera. Enfin, tu vois, c'est. En fait, c'est de la communication. C'est tout est dans la communication et on sait qu'on peut tout se dire et que même si pendant 24 heures, voilà, on va avoir un débat houleux, on sait que le lendemain, ça reviendra tranquillement, tu vois. Et en fait, je pense que c'est le cas pour tous les associés. Enfin, moi, j'ai du coup trois autres associés, enfin deux autres, si on la compte pas dedans, deux autres. Et c'est pareil, enfin, je veux dire, c'est tout réside dans la confiance, dans la maturité aussi, finalement. Enfin, je veux dire, c'est... on n'est pas là pour se battre. Oui, forcément, il y a des moments où on a des sujets, on n'est pas d'accord. Bah, bon, c'est le jeu, c'est le but. Puis heureusement qu'on n'est pas d'accord, sinon on aurait un gros problème. Enfin, je pense, en tout cas. Mais bon, finalement, on s'en sort toujours. Non, enfin, j'ai jamais vraiment eu de soucis, moi, à ce niveau-là. C'est quelque chose qu'on a toujours bien géré. Après, est-ce que c'est parce que j'ai choisi? Bon, j'en sais rien. Mais non, à ce niveau-là, ouais. J'ai plutôt beaucoup de chance.
Et je me demande justement, est-ce que dans vos entreprises, vous avez mis une sorte de, je sais pas, de charte, enfin de un peu de, je sais pas, de mission statement, un peu qui guidait votre état d'esprit, vos actions, etc. Dès le début, avant même, on va dire, de vraiment avoir quelque chose de développé ou d'aller commercialiser une solution. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu assez tôt, de mettre sur le papier ces valeurs et vraiment l'état d'esprit de l'entreprise? Je sais pas, Julien, est-ce que toi, c'est quelque chose que vous avez fait assez tôt dans le processus?
Ouais, de façon écrite, je veux dire tranchée, qui peut être lue par des gens, non. De façon implicite, dès le début. Dès le début, le fonctionnement de Camille, de Alex, d'Aurélie, de Ben, qui nous ont rejoints au tout début, oui. On avait une culture, à tel point que, tu vois, on est 11 dans l'équipe, mais il y a plus d'une vingtaine de personnes qui a passé dans l'entreprise, et il y en a beaucoup avec qui ça l'a pas fait parce que la culture est hyper forte. Donc en fait c'était même pas, en fait on n'avait pas ressenti le besoin de l'écrire parce que c'était évident, on avait des fonctionnements qui étaient tellement similaires que c'était évident. Par contre, avec la croissance en ce moment, on est en train de trancher tout ça. On a tranché nos valeurs, on a tranché j'utilise beaucoup le Galion, je sais pas si vous connaissez le Galion Project, mais c'est ils ont beaucoup de documents, ils ont une charte sur une charte autour des équités, égalité hommes et femmes au travail, des comportements parfois qui nous semblent pas dérangeants, mais qui le sont pourtant. Et j'essaie de mettre tout ça en place, de structurer, parce que c'est un élément essentiel à la croissance, c'est d'être clair là-dessus et de pouvoir présenter à ses candidats un environnement de travail qui est clair. Et soit ils adhèrent, soit ils n'adhèrent pas, mais au moins ils ont le choix, plutôt que d'être un peu sombre.
Ouais. Et est-ce que ça, c'est quelque chose... qui vous vient de conseillers, d'advisors, de mentors que vous avez su, on va dire, faire adhérer au projet. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu utilises, d'avoir des relations proches autour de ton projet?
Ouais, Samdoc a été incubé dans un incubateur public qui s'appelle Normandie Incubation, et on a un mentor qui, moi, s'appelle Jean-Paul Leloutre, qui est un mec exceptionnel, et il a fait des toutes petites boîtes, et il a fait des boîtes comme Vinci, tu vois. Et au fond, il est revenu aux bases, et ce qu'il m'a expliqué la première fois qu'on s'est vu, c'est qu'en fait, avant tout, faut être humain. Ça fait partie d'une de nos trois valeurs, d'ailleurs. C'est l'humanité. Et je pense que des bons exemples, je reviens sur Alan et sa clarté envers ses salariés, la clairvoyance qu'ils peuvent avoir dans toutes les informations. Enfin, je veux dire, sur le site d'Alan, en bas à gauche du site d'Alan, vous avez le détail financier d'Alan sur une boîte qui est, enfin, c'est quand même une boîte qui est sur un secteur hyper concurrentiel. Ça démontre la logique. La logique de culture, de simplicité. C'est tellement simple quand on s'entend tous. C'est plus compliqué. J'ai un avocat qui disait toujours, le pacte d'associés, il sert quand ça se passe pas bien. Et je trouve que c'est vraiment vrai, parce que au fond, nous, on a eu du mal à le rédiger, notre pacte, parce qu'on avait l'impression que c'était impossible que ça casse. Et c'est impossible. J'y crois toujours pas. Mm-hmm. Tu vois.
Et justement, Maxime, est-ce que toi, c'est quelque chose qu'on vous apprend ou qu'on même vous apporte, j'aimerais dire, tout chaud quand on fait des études comme ça? Ou comment vous êtes allé chercher ces mentors pour Mediflash?
Alors, juste pour revenir sur le point précédent, effectivement, sur la vision de la boîte, c'est quelque chose où on a vraiment été préparé à ça pendant le master. On nous a toujours donné ce chiffre qui est qu'en gros, 70% des entreprises qui crashent, c'est à cause de problèmes d'associés. Donc, on nous a vraiment guidé là-dessus sur pourquoi on faisait ça, pourquoi on le faisait ensemble. On s'est énormément questionné en amont de la création, à voir si on était aligné. Et tous les 2-3 mois, on se refait une soirée entre nous, on prend des bières et on se demande si on est toujours aligné, si on va toujours dans le même sens, pourquoi on le fait, etc. Et je pense que c'est très important. Et par rapport aux mentors, effectivement, on a eu la chance pendant le master d'être encadré par... par des personnes extrêmement talentueuses, entre autres des mentors de Station F, des personnes qui ont monté plusieurs boîtes, qui nous demandaient d'être vigilants à propos de ça. Là, actuellement, on n'a pas de mentor défini, mais dès qu'on a le moindre doute, on n'hésite pas à utiliser le réseau du master pour aller questionner des personnes qui ont de l'expérience. Alors, c'est souvent consultatif. On ne suit pas toujours les conseils qui nous sont donnés, c'est peut-être un tort, mais c'est toujours bon d'avoir un point de vue extérieur à ton entreprise, parce que quand tu es dedans, il y a des choses, des erreurs que tu commets et tu ne t'en rends pas compte et qui peuvent devenir de vrais problèmes pour la suite de ta boîte.
Je voudrais rebondir sur ce que tu dis, Maxime. Quand on a constitué la société avec, avec Thomas, au tout début, on n'était que tous les deux. On s'est mis, quand on a commencé à s'associer, on s'est mis devant une table et on a fait... trois stress tests. On s'est dit, ok, il y a un mec qui te propose tant pour acheter la boîte, tu dis quoi? Si je peux pas bosser pendant un an parce que je suis malade, tu dis quoi? Tu vois, on a fait des stress tests, on a regardé comment chacun réagissait et si les réactions de l'autre, les idées qui en sortaient collaient, on a considéré que il y avait un socle culturel solide.
Ouais, c'est une très bonne chose. Et alors nous, on nous avait donné un document que je pourrais vous transmettre. C'est les 50 questions à se poser avant de s'associer. Surtout que nous, avec mes associés, moi, je les connaissais que depuis 3 mois, depuis le début du master. C'est intéressant de poser ces questions et d'aller en profondeur sur les choses. C'est pas que des questions à propos de ta boîte, mais sur tes envies personnelles pour la suite. Et faut pas se leurrer. Les conflits peuvent venir de là aussi sur des envies de perso qui viennent interférer avec potentiellement avec le devenir de ta boîte. Et donc c'est important de se questionner en amont et de le refaire régulièrement, parce que parfois on avance et en fait on se rend compte que c'est pas le sens dans lequel on voulait avancer, et ça peut faire vaciller une très bonne entente.
Ouais. J'aimerais qu'on passe tranquillement vers la fin, parce que ça fait déjà un moment qu'on parle. Sur notamment les conseils pour le démarrage et le financement d'un projet. Donc là, vous avez tous parlé d'équipe. Et je pense qu'il y a une question qui se pose, c'est comment vous pouvez vous permettre aujourd'hui de travailler à plein temps sur vos projets, et comment vous pouvez payer, vous, d'autres collaborateurs. Du coup, Julien, est-ce que tu pourrais nous expliquer, toi, parce que tu m'avais parlé, il me semble, à une levée.
Ouais, alors, c'est un podcast d'étudiants entrepreneurs et on a la chance en tant qu'étudiants de pouvoir faire un prêt étudiant. Alors, les banques nous disent souvent que c'est pour acheter des voitures ou pour payer des études, mais... En réalité, on peut le débloquer pour plein de trucs. Moi en particulier, et Thomas aussi, on a mis 25 000 euros chacun dans l'entreprise, parce que on a tout de suite très vite compris qu'on pouvait faire des effets leviers sur des financements publics avec ça. Donc 50 000 euros de fonds propres au début, puis ensuite tu vas chercher un premier petit tour de financement. Et là, on est en train d'en clôturer un beaucoup plus gros. Mais je pense clairement que la première chose, c'est de se dire: si je veux pouvoir me mettre à plein temps, il faut que je puisse en vivre correctement. Et la deuxième chose, c'est que plus tu lèves vite, plus tu te confrontes d'abord aux questions des BA et ensuite aux questions des VC qui font pas plaisir. Et ça fait vraiment avancer. Enfin, j'ai pas levé avec des fonds, mais j'en ai croisé beaucoup. Et ils ont des questions qui te font faire des bonds en avant. Ne serait-ce que de se préparer, il faut le faire. Il faut lever.
C'est intéressant, remettre son projet en question constamment, et notamment sur les financements, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre quand on monte une start-up. Est-ce que justement, Maxime, toi, tu aurais des clés à nous partager là-dessus, parce que c'est quelque chose que tu as déjà vécu avec ta première expérience entrepreneuriale. Tu nous avais dit que le but, c'était d'avoir un projet qui ne te coûte pas cher au démarrage à monter. Est-ce que c'est le cas également de Mediflash et comment vous financez le début de cette aventure?
Alors effectivement, pour ma première boîte, j'ai tout fait sur fonds propres parce que c'était gérable et après j'avais pas un gros besoin en fonds de roulement pour la première boîte, donc la croissance permettait de se financer en elle-même. Là avec Mediflash, c'est un peu différent, on a un besoin en fonds de roulement qui est énorme. Donc du coup, ça a limité notre croissance, mais au début on a chacun mis de l'argent avec mes trois associés, on a mis à peu près 2000 euros de capital et on a rajouté chacun 3000 euros de compte courant d'associés. Ça nous permettait de financer le premier mois. Et là, rapidement, ça a atteint ses limites. Et donc, on est passé par des autres solutions de financement, entre autres la facturage, qui coûte très cher d'ailleurs, mais qui nous enlève cette épine dans le pied. On passe aussi par des financements publics.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la facturage?
Alors, en fait, la facturage, c'est quand tu as un besoin en fonds de roulement élevé. Typiquement, nous, nos soignants, on les paye à chaque fin de mois. Enfin, maintenant, on est passé à 2 semaines après réalisation de leur mission. Sauf que vu qu'on travaille avec des grands groupes, eux ne règlent la facture qu'en général 60 jours après émission de la facture. Et donc, au lieu d'attendre ces 60 jours, on passe par une des sociétés d'affacturage. Donc, eux, en gros, rachètent la facture. Ils nous donnent tout de suite l'argent. Et on attend de se faire payer par l'établissement de santé et on rembourse en gros la société d'affacturage qui prend 4% de marge. Voilà. Enfin, après, ça dépend des boîtes et de ton modèle, mais ça coûte assez cher, mais ça sauve pas mal les choses. Pour le financement public, ça prend énormément de temps. Faut compter 4 à 6 mois facilement pour avoir des aides. Mais effectivement, c'est une très bonne chose. Et après, d'un point de vue un peu plus personnel, effectivement, on se rémunère pas encore, justement, c'est à cause de ces problèmes de besoin en fonds de roulement. Mais du coup, on a la chance d'être un peu plus âgé que Clément et Julien, donc on touche le RSA. Parce qu'il faut pas oublier que l'État est un des premiers sponsors des entrepreneurs. On vit quand même dans un très beau pays. Et après, pour la suite, on verra comment on avance.
Ouais, et c'est vraiment intéressant ça, c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup d'entrepreneurs qui me racontent que bah du coup c'est le chômage qui finance en fait le début de leur boîte hein, tout simplement, et que c'est un bon moyen de rebondir. On va passer sur les conseils de la fin, ça fait plus d'une heure qu'on parle. Est-ce que vous auriez, vous, un conseil, on va dire un gros conseil à partager à l'étudiant qui va débuter ses études du moins et souhaite entreprendre dans la santé? Quel est le conseil que vous voudriez lui partager? J'aimerais commencer avec Julien du coup.
C'est pas facile hein, parce qu'il y en a plein à donner des conseils. Je pense que s'il y avait une seule chose que j'ai envie de dire à mes camarades, hein, parce que c'est des camarades de promo, c'est faut le faire le plus tôt possible. Faut prendre les taquets le plus tôt possible et pas être formaté par certains systèmes qu'on peut croiser pendant ses études. Faut prendre les taquets le plus tôt possible et grandir avec ça en fait. Devenir un adulte, parce qu'on est des adultes en devenir encore, hein, même 2 ans, je considère qu'on a encore à apprendre plein de trucs et faut prendre le taquet le plus vite possible.
Non, c'est clair. Et Maxime, toi, ce serait quoi ton conseil?
C'est que effectivement, le moment des études, c'est le meilleur moment pour entreprendre, parce qu'il y a une certaine entre guillemets sécurité, donc faut pas hésiter et surtout parler de sa boîte. Faut pas avoir peur qu'on se fasse piquer l'idée et faut parler à ses concurrents le plus tôt possible. C'est eux qui vous apprendront le plus de choses et élargir au maximum le champ des interviews des personnes qui sont sur le domaine. Ça peut vous aider à vous différencier et ça vous fera gagner du temps pour la suite. Éventuellement, ça vous donnera d'autres idées.
Ok, ça c'est un bon conseil. Merci en tout cas à vous trois. Bon, c'était pas les conditions optimales. C'est vraiment un contexte assez particulier, mais merci beaucoup pour les conseils que vous avez partagés. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir tout simplement en vrai et puis de boire une bière, d'échanger autour de vos aventures entrepreneuriales en santé. N'hésitez pas surtout à laisser 5 étoiles à cet épisode, enfin tout simplement au podcast, un commentaire sur l'application, sur mon post LinkedIn, me dire ce que vous en avez pensé, à m'envoyer un message. Moi je vous retrouve pour un prochain épisode d'Entreprendre dans la santé. À très vite. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser une super note sur ton appli préféré de podcast et à en parler autour de toi. Tu peux également m'envoyer un message sur mon LinkedIn Jean-Baptiste Michel afin de me dire ce que tu en penses. Moi, je te dis à très vite pour un prochain épisode d'Entreprendre dans la santé.